ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faut être groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Groupir!
Alors, va.
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Mais si!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur la percée de l'histoire sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et nous sommes là, le 9 juillet 2024, à l'antenne, comme d'habitude. Et évidemment, vous le savez très bien, je ne suis pas tout seul parce que cette émission ne serait rien sans le grand, le magnifique, Salouane Benriss. Bonjour.
Bonsoir, comment tu vas?
Ça va et toi?
Moi, très bien, très bien.
Ah, super, ouais, on a commencé un peu en retard parce que nous avions des discussions passionnées, passionnantes. Et donc, on n'a pas vu le temps passer. Et donc, nous voilà ce soir avec un programme spécial que je n'ai pas révélé sur les réseaux. Pour ceux qui ont vu le post sur Facebook ou Instagram, la percée de l'histoire, bien évidemment. Parce que j'avais plus d'inspi. Autant vous dire, voilà. Non, mais je veux pas
paraître. Soyons honnêtes.
Voilà, je veux pas paraître pédant ou genre oui. Non, mais voilà.
L'été s'est installé, ce sont les vacances, ça se comprend.
C'est un peu ça. Et voyez, quand je vous disais que le programme serait une surprise, c'était aussi une surprise pour nous.
Oui.
Et c'est pour vous dire que bon, voilà. Mais en tous les cas, maintenant, le programme est défini déjà. Le sacro-saint journal historique, évidemment, parce que sans ça, on ne serait rien. Et ensuite, nous aurons deux petites chroniques. Donc, pour ma part, je parlerai un peu de la Fédération française de football, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce soir, et d'ailleurs, on rendra un peu en avance l'antenne, parce qu'il y a le match. Donc, nous, bon, bah, vous vous en doutez, on va foncer
voir
dans
le, match, ouais.
Le, voilà, le bar le plus proche pour aller voir le match, évidemment. Tes pronostics, Salouane, ce soir?
Ouh,
est-ce que tu as réfléchi?
Ça me fait peur, vu l'état de l'équipe de France et vu l'état de l'équipe d'Espagne. J'ai peur. Je parle d'être pessimiste, mais je sens soit la victoire de l'Espagne, soit ça va se jouer au tir au but. Et
ouais,
malheureusement, si on arrive au tir au but, tout est faisable, mais j'ai quand même peur d'un but de l'Espagne, d'un ou deux buts de l'Espagne pendant le temps réglementaire. Mmh.
Donc c'est vrai que t'es un peu comme la France a peur, quoi.
Oui, c'est ça.
Je
préfère partir pessimiste et avoir une bonne surprise que m'enjoy ou que je sais plus comment on dit.
Te galvaniser.
Me galvaniser, c'est ça. Sûr. Et au final être déçu.
Mais oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que la prestation de la dernière fois a été.
Ah ouais, c'est la compétition là est très.
On a revécu le France-Suisse de 2021, je sais
oui,
plus.
Oui, un peu, c'est vrai. Ouais, c'est jusqu'au tir au but.
Ouais, à l'époque, j'avais été le voir dans un bar et vraiment, oh là là, mais quelle souffrance, souffrance.
Jusqu'au tir au but,
c'était l'enfer. Mais j'ai peur qu'on refasse une. Avec qui on s'est battu la dernière fois là, la semaine dernière?
Portugal.
Ben voilà, je pense qu'on
jusqu'au tir au but.
Oui, ah ben oui, ça a été long. Hein.
Ouais.
Oh, et puis donc le Portugal en a raté un. Mmh. Nous, on les a pas ratés.
Oui.
On les a pas ratés et c'est ça qui nous mène aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça a été dans la sueur et les larmes.
Hein. c'est long.
Mais ouais, parce qu'en plus c'était mou.
Oui.
Mais c'est pas comme s'ils faisaient des dingueries genre.
Non,
ouais,
malheureusement, non, c'est.
C'était mou, un
ça
truc de dingue.
Coup pour coup.
J'étais dans une soirée de fin d'année de collège, tu vois, et on a regardé un peu le match. Et c'est vrai que, putain, on avait le temps de boire un verre, papoter, de discuter, puis
c'est
on va dire.
Tu regardes du coin de l'œil, quoi. Tu suis pas, t'es pas devant.
Ah non, on n'était pas. Et heureusement, parce que imagine, enfin, tu vois, je me suis imaginé le fait que j'allais encore au Mans pour aller voir ça dans un bar. Et ce serait tous emmerdés, quoi.
Ah bah,
et je plains tous ceux qui l'ont fait.
Ouais.
Messieurs, dames, je compatis absolument.
Les supporters.
Parce que, ouais, quoi. L'horreur. Bref, quoi qu'il en soit, ça c'est après, après l'émission. Mais dans tous les cas, nous allons parler un peu d'histoire. Donc, pour ma part, je disais, je vais parler un peu de la Fédération Française de Football et Salouane nous parlera d'un petit truc qui a été découvert en juin.
Hein. C'est ça, une belle découverte archéologique en Crète.
En Crète, donc qui est en...
En
dans quel pays ?
Ah, en Grèce.
Voilà.
Oui, c'est la Grèce, la grande île toute longue.
Vêtu.
C'est ce que j'allais dire, mais pour ça je me suis arrêté.
Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, on verra la surprise parce que moi-même, je ne la connais pas, voyez-vous. Donc, nous allons voir tout ça. En attendant, il est l'heure. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un petit édito. Eh bien, j'en refais un aujourd'hui puisque c'est à propos, évidemment. Les élections sont passées, figurez-vous. Mais ce soir, autre ambiance. C'est le match France-Espagne. On espère quand même qu'on va gagner. Doit-on pour autant se reposer sur nos lauriers ? Évidemment que non. Les prochaines semaines seront décisives pour notre grande nation. À commencer par les élections du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. La composition du bureau de celle-ci. De l'élection des différentes présidentes et présidents de commission. Et j'en passe et des milliers. Le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devra marcher sur un fil. Car il devra affronter l'opposition d'une chambre coupée finalement en trois blocs, on l'a bien vu. Une question peut se poser légitimement ce soir. La Ve République va-t-elle surmonter ce défi de taille ? Parce que c'est vrai que là, c'est inédit. Alors, vous allez me dire, oui, mais en 2022, on a déjà vécu ça. C'est vrai, mais pas
à ce point-là,
autant.
Ouais.
Parce que c'est vrai que le camp présidentiel avait 250 sièges, ce qui fait que pour trouver une majorité, c'était plus facile, entre guillemets. Là, on a 182 sièges pour
la
bloc, oui, la gauche réunie, 150 à peu près pour le camp présidentiel, et puis 143, je crois, pour le RN. Donc c'est vrai que là, finalement, on a vraiment trois blocs, à peu près distincts, et ça va être difficile de dégager des majorités, quoi qu'on en dise. Parce que c'est vrai que certains, pour reprendre les idées de la gauche, certaines décisions pourront se prendre par décret, mais on ne va pas pouvoir éternellement gouverner comme ça, quoi. Donc c'est vrai que là, la situation est un peu tendax, et c'est vrai que la Ve République, là, elle n'est pas prévue pour ça, quoi. C'est vrai que si on regarde l'histoire, à chaque fois, même s'il y avait une cohabitation, un président de droite ou de gauche qui avait un premier ministre de droite ou de gauche, le cas échéant, eh bien, le premier ministre avait une majorité absolue.
Oui, oui. Oui.
Je dis bien absolue. Là, c'est vrai que depuis finalement l'éclatement du bipartisme qu'on avait en France depuis 2017, hein, parce que c'est Macron qui redistribue les cartes et qui désorganise, entre guillemets, le bipartisme qu'on avait en France depuis 58, et bien là, on arrive dans une situation où on a trois blocs et absolument rien...
Ingouvernable.
Voilà. Rien dans la Constitution ne permet qu'on puisse faire comme en Italie ou que sais-je, ou en Allemagne, par exemple. Là, c'est pas possible, quoi.
C'est peut-être la fin de la Cinquième.
Peut-être.
Et ce serait pas plus mal.
Ou alors une révision constitutionnelle, quoi.
À ce stade, autant passer à une sixième, puisque la cinquième, ça y est, elle a fait son temps, je pense. Il serait peut-être temps de... Les enjeux sont plus les mêmes. Le contexte d'écriture d'une constitution n'est plus le même. On n'est plus en guerre civile, entre guillemets, la guerre d'Algérie.
Oui,
on peut passer à autre chose, à donner un peu, faire une constitution beaucoup plus participative, avec plus de décisions, et avoir une démocratie plus participative. Donc, c'est peut-être... la lueur d'espoir, l'idéal vers lequel tendre,
oui,
une sixième république, c'est pas déconnant, ce serait pas...
Alors, dans l'état actuel, on va voir dans les prochaines semaines, parce que pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire quelque chose, mais c'est vrai que ça semble de plus en plus plausible, dis bien plausible, et c'est vrai que, ou alors, comme je disais, une réforme constitutionnelle de la cinquième, quoi.
Oui.
Je veux dire, là, à l'heure actuelle, ça m'étonnerait que... Dans les rapports de force qui sont actuellement, ça m'étonnerait qu'on puisse faire grand-chose d'extravagant.
Ouais, ça va être... Ou alors, on va rester comme ça, avec ce statut de gouvernant ingouvernable.
Oui, voilà, c'est un
pendant
peu ça,
un an jusqu'à une prochaine dissolution. Mais là.
Bah, certains éditorialistes disent qu'il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, la formation d'un gouvernement technique.
Oui.
Mais en fait, je pense que c'est à moitié faux, tu vois, parce que le prochain budget va être révélateur.
Oui,
ouais, le prochain budget, bah oui, quel que gouvernement que ce soit.
La grande décision à prendre.
Évidemment. Et tu vois, là, on va vraiment voir ceux qui sont pour le gouvernement ou contre le gouvernement. Et si motion de censure il y a, il y a franchement des chances qu'elle passe. Cette
oui, bah oui, oui.
Qui serait inédit depuis 1962, je le rappelle.
Oui, 62. Ouais.
Ah oui, la dernière motion de censure qui a été appliquée en France, c'est sous le gouvernement Pompidou, il me semble,
oui.
Pendant la présidence de Gaulle, hein, qui reçoit 80, donc je rappelle, la majorité absolue des sièges à l'Assemblée, c'est-à-dire 289 députés. Et de Gaulle décide de dissoudre l'Assemblée juste à ce moment-là, parce que c'est pas possible. Et heureusement pour lui, j'ai envie de dire, il y a une majorité plus large pour lui après la dissolution. Donc ça a été un pari finalement gagnant pour lui. Mais mine de rien, la dernière motion de censure qui a failli passer, c'était pour la réforme des retraites.
Oui, les retraites. Ouais.
À 9 voix près. Hein.
C'est ça.
Donc c'est vrai que bon. Enfin bon, bref. Pendant ce temps.
L'histoire. Mais la politique et l'histoire sont liées. Les
ah, bah, de toute manière, c'est vrai que pendant notre période sur Radio Alpa, on a parlé un peu de politique.
Oui.
Mais pas tellement, finalement. Enfin, je veux dire, on n'a pas été turbo-matrixé pour la politique. Mais c'est vrai que dissocier histoire et politique, c'est
très difficile.
C'est pas possible. Parce que là, vous voyez bien. Que là, bah, depuis la semaine dernière, finalement, on en parle, c'est pas possible d'en parler autrement, quoi, et de dissocier les deux. Parce que on a, même si on est dans l'argument, oui, bah, l'histoire ne se répète pas à chaque fois, ça, c'est une chimère pour ceux qui disent ça, oui, l'histoire se répète, non, c'est faux. Mais en tous les cas, il y a des constantes, et on voit bien que bah, certaines théories sont fantasques. Du point de vue de l'histoire, où certaines choses sont irréalisables.
Ouais.
Donc bon, maintenant, tout est permis, j'ai envie de dire, finalement. C'est un peu vendredi, tout est permis. Toutes les semaines. Mais on va bien voir ce qui se passe.
Et qui puis, vivra, verra.
Voilà. Mais nous, ce qu'on espère, c'est que chacun reste sur ses positions, quoi. Enfin, je veux dire, reste cohérent.
Oui.
La cohérence avant tout.
Ne nous trahissez pas.
Ben voilà, c'est un peu ça. Enfin bon, bref. Encore une fois, une petite virgule, tiens, avant le journal historique. Évidemment, vous l'attendez tous, vous vivez pour ça finalement, nous vivons pour ça en tout cas. C'est le journal historique, c'est maintenant après la virgule.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Et donc ce journal historique du 9 juillet, donc autant vous dire qu'il va être très court, hein, parce que honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Le 9 juillet, il ne se passe pas grand-chose dans l'histoire. Pour les événements, eh bien d'abord, le 9 juillet 1762, nous avons trois régiments de la garde du tsar Pierre III qui se révoltent contre leur maître et prêtent serment de fidélité à son épouse, Catherine, pour, je cite, « la défense de la foi orthodoxe et pour la gloire de la Russie ». Leur révolte est animée par le propre amant de la reine, Grégoire Orlov. Donc, qui aura raison, puisque Catherine montera sur le trône sous le nom de Catherine II. Le 9 juillet 1816, la bourgeoisie créole de Buenos Aires proclame officiellement l'indépendance de l'ancienne vice-royauté espagnole du Rio de la Plata, sous le nom de Province Unie de la Plata, qui deviendra plus tard l'Argentine. Le 9 juillet 1932, par les accords de Lausanne, les réparations qui avaient été imposées à l'Allemagne, vaincue lors du traité de Versailles de 1919, sont définitivement abolies. Cette mesure d'apaisement vient trop tard. L'Allemagne, frappée par la crise économique, succombe aux harangues funestes d'un certain Adolf Hitler. Et enfin, le 9 juillet 2011 est officiellement né le Sud-Soutan, 193e État des Nations Unies et 50e État africain. La capitale est Djouba. Et alors, pour les naissances, mon petit Salouane, qu'est-ce qui se passe?
Les naissances, il y en a une aujourd'hui, celle de Hassan II, né le 9 juillet 1929 à Rabat, et décédé le 23 juillet 1999, toujours à Rabat, au Maroc. Il est le fils du roi Mohamed V, le restaurateur de l'indépendance du Maroc. Hassan II lui succède le 26 février 1961. Il promulgue une constitution l'année suivante, mais n'en dirige pas moins le pays d'une main de fer, sans reculer devant l'élimination de certains de ses adversaires ou opposants, comme Mehdi Ben Barka, ou son propre ministre de l'Intérieur, Mohamed Oufkir. À sa mort, le 23 juillet 1999, son fils aîné lui succède sous le nom de Mohamed VI, devenant à 35 ans le 23e souverain de la dynastie alaouite et le 3e à porter le titre de roi du Maroc. Préparé dès l'enfance à son rôle de souverain, il va avoir la tâche difficile d'assurer la modernisation du royaume tout en le préservant, des menées islamistes.
Merci beaucoup Salouane pour cette naissance, parce que oui, c'est la seule. Il n'y a pas de décès.
Non.
Personne n'est mort le 9 juillet. Donc, si jamais vous êtes connu, après,
envoyez-nous
ce que vous voulez. Hein. Mais bon, dans tous les cas, vous aurez toute votre place. Pour la fête, qui fête-t-on? Nous fêtons les Saintes Amandines. Bonne fête, Amandine. Je connaissais une Amandine au collège.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
C'est un prénom assez populaire.
C'est vrai. Bah, quoique, c'est la première et dernière fois pour l'instant. Et je me souviens une fois, elle avait fait malheureusement un petit malaise en cours d'espagnol. Non, en cours d'SVT même. C'était un peu la panique à bord. Enfin, bref, bonne fête, Amandine. Donc, née en Belgique, Amandine prend l'habit des franciscaines et devient missionnaire en Chine, où elle se signale par sa joie. Cela ne l'empêche pas d'être mise à mort par les boxeurs. Une révolte, une énième, j'ai envie de dire, révolte en Chine. C'est vrai que la Chine, on ne l'a pas beaucoup évoquée pendant la percée de l'histoire, mais en tout cas, c'est une histoire très intéressante, celle de la Chine et du Japon, qu'on a beaucoup abordé d'ailleurs, enfin beaucoup. On a abordé.
Un peu plus que la Chine.
Un peu plus, c'est vrai. Mais c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup pour ce journal historique. Et tout de suite, nous allons nous faire une petite pause musicale. Et donc, ça va changer un peu, c'est alternatif. Parce que ici, nous sommes dans une radio alternative. Nous faisons découvrir des artistes qui ne sont pas forcément connus. En tout cas, je ne connaissais pas. Le titre s'appelle 2020. De I Am Daylight. Donc, c'est tout de suite et maintenant. Et tu connais
ça,
Loin?
Non, ça ne me dit rien du tout.
Eh bien, écoute, on va écouter ça immédiatement. C'est un peu fort. Hein, donc, si jamais, baissez un peu le son de vos postes radio. C'est sympa, c'est tout de suite sur Radio Alpa. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OT boy, day we hustle, but the night we OT boy, know that they ride or die. I'm a OT boy, know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OT boy. Day we hustle, but the night we OT boy. Know that they ride or die. Yeah. I'm a OT boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Cody's brothers, my
my guys know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer a bar. They ain't no longer a bar. They ain't no longer a bar.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez bien la percée de l'histoire avec un titre alternatif 2020 de I'm Daylight. Qui était, comme je vous le disais avant, un peu fort dans les oreilles, avec des basses incroyables. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ce son qui me semble tout à fait pertinent. Maintenant, je vais vous parler d'une chose de tout à fait d'actualité, le foot. Parce que nous sommes là pour ça finalement. Je le rappelle, ce soir, France-Espagne, prédiction autour du plateau, bon allez, 1-0 pour la France, hein, je pense qu'on serait d'accord là-dessus.
Ouais.
À peu près, oui, tu
oui.
vois.
Oui.
Ou alors, je dirais 1-1 et c'est la séance.
Tir au but.
Voilà, c'est. Voilà. Donc, bon, je pense que ça va être serré. En tout cas, je ne crois pas qu'il va y avoir une équipe qui va se distinguer plus que l'autre. Je n'espère pas. On se souvient du fameux match Brésil-Allemagne 7-1, je ne sais plus quand, en 2000. 2016, 2018, je ne sais plus.
Oh, bah, la Coupe du Monde avant 2018, donc 4 ans avant.
Eh bien, 2014.
Oui, c'était ça.
Donc, c'était 2014.
Oui, c'était ça.
Bon, bah écoute, voilà, on s'en souvient tous où les Brésiliens étaient...
C'était au Brésil, c'était la Coupe du Monde au Brésil.
Ah bah oui, maintenant que tu dis oui,
l'Allemagne
parce
avait,
tout ça, oui, c'est vrai.
Avait purgé ah bah, l'équipe c'est... du Brésil.
Oui, parce que voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai que... pour les Brésiliens, ça a été l'enfer sur Terre. Et les pauvres messieurs dames, enfin les pauvres messieurs surtout, 7-1, cui-cui. Bref, en tous les cas, pour ce qui est de la Fédération Française de Football, dis-moi Salouane, est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle a été fondée?
Ouf,
une date.
20e siècle, c'est sûr.
Oui, c'est vrai.
Alors... Avant ou après la Première Guerre mondiale?
Toute la question est là.
C'est la question. Ah, j'ai envie de te dire un peu avant.
Ouais.
1910, 1912, quelque chose comme ça.
Eh bien, pas du tout.
Oui.
C'est après.
Les années 30?
Non.
Même pas?
1919.
Ok.
Donc, tu vois, le 7 avril 1919, donc le traité de Versailles n'est pas encore signé.
Oui.
Il sera signé le 21 juin, il me semble. Hein, 21 juin. Donc, on est encore dans les négociations de paix, hein, finalement. Mais l'armistice, lui, est signé depuis presque un an, oui, 11 novembre. Et donc, nous sommes là, le 7 avril 1919. Et donc, la Fédération Française de Football est fondée sous le nom de Fédération Française de Football Association. Ils aiment bien mettre le mot association quand même à la fin. Donc, ça fait la FFFA, regroupant les clubs de football de France... de l'AS Monaco, est chargé de l'organisation de la pratique du football en France, notamment des compétitions nationales et des matchs internationaux des équipes de France. Elle est affiliée par la Fédération Internationale de Football Association, donc la FIFA, depuis sa création, ayant succédé au Comité Français Interfédéral, la CFI, affilié depuis 1907, et à l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, l'USFSA, membre fondateur de l'organisme international en 1904. Le siège de la Fédération Française de Football est situé au 87 boulevard de Grenelle, figurez-vous, à Paris. Donc, comment se structure cette fédération? Parce qu'on ne connaît pas beaucoup la structure, et c'est ça que j'ai appris en préparant cette chronique, c'est comment, finalement, fonctionne la fédération. Eh bien, la fédération a pour rôle déjà d'organiser, de développer, de contrôler l'enseignement et la pratique du football sous toutes ses formes par des joueurs de statuts différents en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc, c'est-à-dire qu'il a l'exclusivité de l'organisation de tout ce qui se passe en France en matière de foot. De créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les clubs affiliés, ses districts, ses ligues régionales, la ligue de football amateur, la ligue de football professionnel et la ligue féminine de football professionnel. Il y a aussi pour rôle de défendre les intérêts moraux et matériels du football français, rien que ça, et enfin d'entretenir toutes les relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la FIFA, les organismes sportifs nationaux et les pouvoirs publics. Donc finalement, c'est beaucoup de responsabilités, mine de rien, qu'on ne pense pas au premier abord, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, bah voilà, ils organisent le foot en France et puis c'est tout. Mais quelque part, il y a aussi du relationnel entre les États, et j'imagine que toutes les ligues nationales ou les fédérations nationales doivent faire exactement la même chose. Et en France, eh ben, on n'y échappe pas. Alors, comment se passe l'administration? Eh bien, depuis juin 2011, la fédération est administrée par trois organes. L'Assemblée fédérale, le comité exécutif et la haute autorité du football. L'Assemblée fédérale est composée des délégués des clubs, élus par les assemblées générales des organismes fédéraux et régionaux. Donc vous voyez que là, c'est vraiment un système en pyramide. Elle élit par vote secret les membres du comité exclusif en membres de droit et les membres de la haute autorité de football. Le comité exclusif est composé de 12 membres. Deux membres de droit, c'est-à-dire les présidents de la LFP, donc, c'est-à-dire de la Ligue de football professionnel, la Ligue féminine professionnelle et la Ligue amateur, donc les trois membres, et 10 membres élus, dont au minimum une femme. Donc ça fait pas beaucoup, vous me direz. Parce que c'est vrai que en ce qui concerne la parité, bon, on n'en est pas encore là. Hein. Déjà, on accepte le président de la Ligue féminine, j'ai envie de dire. Mais c'est là où il y a beaucoup, notamment d'associations féministes, à raison, militent pour une parité plus importante. Dans,
un des problèmes du football.
Ben voilà. Et puis finalement de la société générale. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que nous, on est féministes avant tout, vous le savez bien. Mais c'est vrai que bon, on peut se déplorer ce fait-là quand même. Donc la haute autorité de football, elle, est composée de 20 membres. Deux membres représentant les présidents de ligue, deux membres représentant les présidents de district, deux membres représentant les clubs professionnels, deux membres représentant les clubs amateurs, deux membres représentant les éducateurs, pardonnez-moi, un représentant des entraîneurs professionnels de football et un représentant des autres éducateurs de football, deux membres représentant les arbitres qui ont évidemment une place centrale dans la match. Hein,
on les oublie assez souvent.
Ben oui, c'est vrai. Donc, deux membres, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça, j'ai envie de dire, entre guillemets. Un représentant des arbitres d'élite et un représentant des arbitres de football, les autres. Hein. Deux membres représentant les joueurs professionnels. Deux membres représentant les administratifs et assimilés au football. Et enfin, même, carrément, deux médecins. J'étais très étonné, mais c'est vrai, parce qu'on n'en parle pas assez encore une fois, les médecins font partie intégrante d'un bon déroulement d'un match.
Et, oui.
Et ce soir, eh ben, les médecins vont s'affairer à préparer les joueurs, à veiller au bon conditionnement de tout le monde, à regarder si le petit nez de Mbappé n'est pas trop cassé, s'il va falloir encore un petit masque. Bref, c'est vrai que les médecins font partie intégrante du football et on l'oublie assez souvent. Je parle du football parce que là, on parle de la fédération, mais c'est évidemment pour tous les sports, que ce soit le rugby, le football américain, le basket, enfin bref, tous les sports où on a forcément un médecin, oui, ou un kiné, hein, qui est là, oui, évidemment. De 2005 à 2010, il existe également un club de France destiné à gérer l'équipe de France de football avec le sélectionneur et composé de 11 membres. Et vous l'avez compris, depuis 2010, c'est fini. En septembre 2014, la fédération lance un appel à projet Horizon Bleu 2016. Ça s'appelle pour moderniser le football français d'ici l'Euro 2016, organisé en France. Donc, pour ce qui est de la modernisation, bon, ça va petit à petit, mais évidemment, une telle fédération avec beaucoup de membres et une histoire assez longue a forcément ce long de polémiques qu'on ne peut pas nier, évidemment. Notamment, trois affaires assez graves qui sont tout d'abord l'affaire des quotas. En 2011, une polémique éclate lors de la révélation d'un enregistrement audio par Mediapart d'une réunion au sein de la fédération qui s'était tenue en octobre 2010 et à laquelle était présent Fernand Duchassoy, ou Duchassois, le président de la fédération, le sélectionneur de l'équipe A, Laurent Blanc, le sélectionneur espoir Eric Mombert, et le sélectionneur des U20, Francis Smerekit, ainsi que François Blacard, le directeur de la direction technique nationale, sur un projet d'instauration de quotas de joueurs au sein des différentes sélections nationales françaises, basées sur des critères d'appartenance ethnique. Finalement, ils voulaient nous mettre en place la discrimination positive, oui, comme il y a lieu dans les entreprises. Ce qui est illégal en France aux yeux de la loi, car considéré comme un acte de racisme, évidemment. Cette affaire avait été déclenchée à la polémique en France, à laquelle Laurent Blanc était directement accusé d'avoir tenu des propos polémiques, en plus, basés sur les clichés racistes, plus particulièrement envers les joueurs noirs, lol, en déclarant durant la réunion, et je cite, « En France, on a l'impression qu'on forme le même prototype de joueur, grand, costaud, puissant. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud et puissant ? Point d'interrogation. Les blacks, c'est comme ça, déclare-t-il. » Donc c'est vrai que c'est assez...
Il n'y a pas de
questions
à se poser.
Voilà, exactement. Il y a eu aussi des affaires d'abus sexuels qui ont été révélées. J'ai envie de dire, c'est malheureux, mais finalement, on a l'impression que toutes les hautes sphères de la société sont gangrénées par ça.
Bah, c'est vrai.
C'est incroyable. Dans toutes les directions où on regarde, t'as toujours un mec qui ne peut pas s'empêcher. Parce que c'est toujours des mecs, hein, figurez-vous.
Oui, bah oui, oui.
Mais c'est incroyable. Mais donc, en 2022, on s'en souvient, c'était sorti sur Twitter, je me souviens très bien. Le journaliste Romain Moulina dévoile une enquête sur des faits d'abus sexuels, y compris à l'encontre des joueurs et des joueuses mineures. C'est terrible. Durant 40 ans au sein de la fédération, notamment de la part d'une entraîneuse qui aurait entretenu des relations sexuelles avec des jeunes mineurs, avec le silence de la fédération qui aurait caché ses abus durant des années sans avoir rien signalé aux autorités. Mais également des comportements de cyberharcèlement de la part du président Noël Le Graët, ou Le Graët, oui,
Le Graët,
je me souviens, oui, qui aurait envoyé plusieurs SMS à caractère sexuel à certaines employées de la fédération. Mais lui, on l'avait senti dès le départ. Je ne sais pas si tu te souviens de cet extrait où il est en conférence de presse, apparemment, et il y en a un qui arrive devant lui et il lui jette des billets de dollars à la figure. Et l'autre, il est là, oh non, oh, mon Dieu. Et tu sais, c'était pendant ce mouvement où Platini était pressenti à la, à la présidence aussi. Oui, enfin, bref, c'était horrible. Et enfin, pour terminer ces polémiques d'envergure, eh bien, en mars 2024, figurez-vous, donc ça fait même pas 2 mois, 3 mois donc, la fédération prend la décision d'interdire aux joueurs de confession musulmane des différentes équipes de France, donc c'est même pas les professionnels, c'est tout le monde, tant qu'à faire, de pratiquer le jeûne du Ramadan. Cette décision provoque évidemment une polémique. Certains considérant cette mesure comme islamophobe et discriminatoire, d'autres invoquant la laïcité et la neutralité religieuse qu'on attend d'une fédération. Des accusations que rejette le président, Philippe Diallo, en expliquant, face à la polémique, que personne n'interdit aux joueurs de faire le Ramadan, mais qu'il serait préférable, selon lui bien évidemment, que les joueurs le repoussent, afin de ne pas nuire aux performances sportives, et aussi qu'ils ne peuvent pas exiger un changement des horaires de préparation et d'entraînement pour des régions religieuses. C'est quand même incroyable, et c'est là où on sent bien que les gens qui décident de tout ça, les autorités, n'ont aucune connaissance des religions en général. Aucune connaissance. Parce que si on pouvait décaler le jeûne, tout ça, machin, si on pouvait faire des vacances, ça serait. Hein.
Mais c'est un cas qui est vraiment franco-français. Faut pas aller très très loin. Les ligues anglaises, bon, on voit qu'ils sont un peu plus tolérants. S'il y a besoin de prendre une petite pause de 5 minutes pour rompre le jeûne, bon, ça le fait. Manger le matin, manger le soir, c'est très bien. Et ça ne réduit en rien les capacités physiques des joueurs, on le voit très bien.
Je pense pas. Hein.
Et ouais, quand il y a ce genre de polémique qui ressort, c'est assez drôle parce qu'il y a toujours l'étiquette de la laïcité qui est mise derrière, mais c'est bref, on va pas rentrer dans un plaidoyer, mais
c'est vrai que la laïcité peut être invoquée parce que écoutez, on a le droit encore de faire ça.
Bah oui, à la fois dans les deux cas. Mais oui, si vous voulez utiliser la laïcité pour dire que repoussez-le, on peut utiliser la laïcité pour dire on a le droit à un petit aménagement ou laissez-nous tranquille, ouais. Donc c'est bref.
Et puis c'est pas comme si c'était insurmontable non plus, quoi.
Oui, oui.
Mais bon, ça, ce sont des choix qui sont avant tout politiques, parce que évidemment, encore une fois, ça serait nier les connivences qu'il y a entre les autorités de la fédération et le monde politique en général, parce que c'est les grands présidents de la fédération ont tout leur place au dîner du siècle, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est un grand dîner qui s'organise tous les ans ou tous les mois, je ne sais plus. Bref, à Paris, où tu as sommité politique, journalistique, tout ce que tu veux. Enfin, bon, c'est super, c'est un super gueuleton. En tout cas, tout le monde s'amuse. Mais bon, pendant ce temps-là, les pauvres chialent. Bref, en tout cas, c'est la fin pour cette parenthèse de la Fédération française de football. Et je rappelle ce soir le match incroyable qu'il y aura entre France et Espagne. Ici, on prévoit une petite victoire 1-0 pour la France ou alors une séance de tir au but. Bref, est-ce que l'histoire nous donnera raison ? Rendez-vous tout à l'heure. En tous les cas, petite pause musicale et ensuite ce sera au tour de Salouane qui nous parlera d'une petite surprise. C'est tout de suite. La pause musicale, ce sera Chase de Giorgio Moroder, célèbre bande son de film iconique Midnight Express. C'est tout de suite, c'est bon. We'll be right back.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Le retour sur la percée de l'histoire pour ce dernier carton avec la chronique de Salouane. Alors, cette grande découverte en juin, qu'est-ce qui se
passe? Oui, alors, nous remontons un petit mois. C'est vrai qu'avec l'actualité politique, j'ai mis un peu de côté. D'habitude, j'essaye de suivre toutes les découvertes qui sont faites, les grandes découvertes en tout cas archéologiques qui sont faites. Mais donc, celle-là a été un peu retardée, mais j'en parle aujourd'hui. Donc, mieux vaut tard que jamais.
Bien sûr.
La ministre de la Culture grecque a annoncé le 11 juin dernier, donc, la découverte d'un nouveau site archéologique en Crète attribué aux Minoïens. Alors, un petit mot sur les Minoïens. Les Minoïens sont une culture qui a émergé durant le 4e millénaire avant notre ère sur l'île de Crète. Ils sont souvent considérés comme l'une des premières grandes civilisations d'Europe, avec une histoire riche et complexe qui captive depuis l'engouement suscité par l'archéologue Arthur Jones Evans au début du XXe siècle. C'est d'ailleurs lui qui a donné le nom à cette culture en référence au mythe du roi Minos. Les Égyptiens utilisaient le terme de Kafti pour évoquer la Crète minoïenne, les Acadiens utilisaient plutôt le terme de Kaptara. La renommée des Minoïens repose en partie sur leur impressionnant palais, Knossos, Malia, Gournia, Phaistos, des structures architecturales avancées qui témoignent de leur sophistication technique et de leur organisation sociale. Cela a donné lieu à de nombreuses légendes en raison de leur aspect labyrinthique. On peut d'ailleurs en visiter les ruines sur un célèbre jeu, Assassin's Creed Odyssey.
Bien sûr.
Et y combattre des monstres mythiques de la mythologie. Malgré les découvertes archéologiques qui ont permis de révéler une partie de leur monde, de nombreux mystères subsistent. Leur système d'écriture, connu sous le nom de linéaire A, reste indéchiffré. Les détails de leurs pratiques administratives et religieuses demeurent encore obscurs. Une série de chutes soudaines marque aussi l'histoire tumultueuse des Minoïens et reste un sujet de débat parmi les chercheurs. Ajoutant à la mystique qui entoure cette civilisation ancienne, vers 1700 avant notre ère, l'île a connu ses premières destructions de palais, mais ils ont réussi à se relever rapidement. Cependant, vers 1450 avant notre ère, une catastrophe plus dévastatrice a frappé, ouvrant la voie à l'arrivée des Mycéniens sur l'île. Il est certain en tout cas que les Minoïens occupaient une place centrale dans le monde égéen et au-delà, jouant un rôle crucial dans les échanges commerciaux et culturels de l'âge du bronze. Et donc, on en arrive à cette découverte unique. L'archéologie tient une place particulière en Crète. Les sites sont particulièrement mis en valeur afin de favoriser le tourisme, essentiel à l'économie grecque, tout comme en Égypte. Il n'est donc pas rare de tomber sur un site archéologique tous les 300 mètres, 1 km, qu'il s'agisse de sépultures, de tholos, de sanctuaires, de villas, de colonies, de ports ou de fameux palais. Au sud de la ville de Kastelli, donc, la Grèce a lancé un vaste programme d'aménagement d'un aéroport. Elle a eu aussi la bonne idée de vouloir installer un radar sur une colline située à proximité de la ville, au nord-ouest. Comme vous pouvez... vous pouvez pas le voir, c'est sur la photo. Mais donc, c'est pas très loin des sites des palais de Knossos, de Malia et de Galatas. Donc, c'est grâce à ce radar qui, finalement, va devoir se trouver un nouvel emplacement, puisque un site archéologique a été découvert.
Ouais.
Le ministre de la Culture a promis que la découverte sera préservée, tandis qu'un autre emplacement sera recherché pour la station radar. À peine 3 km au nord se trouve un site d'un sanctuaire de sommet minoïen, celui de Troulitis Corphis. Pour l'instant, les experts pensent qu'il aurait pu être utilisé à des fins rituelles ou religieuses, mais n'indiquent pas s'il s'agit aussi d'un sanctuaire de sommet. Le site découvert se trouve à environ 17 km de Knossos et Malia, et à environ 8 km de Galatas, soit à quelques heures de marche. Bien entendu, il est encore trop tôt pour dire si le site avait un lien entre ces trois palais. Je cite, « Sa taille, sa disposition architecturale, sa construction soignée ont nécessité une main-d'œuvre considérable, un savoir-faire spécialisé, une administration centrale robuste. » Le communiqué ajoute qu'il s'agissait certainement d'une sorte de bâtiment communal qui se distinguait dans toute la région. Le ministère a aussi déclaré que le bâtiment était principalement utilisé entre 2000 et 1700 avant l'ère commune, soit avant la destruction des premiers palais. Le ministère grec de la culture, qui a la chance d'avoir une archéologue à sa tête, en l'occurrence la docteure Lina Mendoni, a en tout cas déclaré mardi que la structure est une trouvaille unique et extrêmement intéressante. Ressemblant à une énorme roue de char vue d'en haut, les ruines de ce bâtiment sont réparties dans un espace de 1800 m². Entourée de 8 murs de pierre en gradin allant jusqu'à 1,7 m de haut, la structure intérieure était divisée en espaces plus petits et interconnectés et pouvait avoir accueilli un toit de forme conique. Le communiqué du ministère indique qu'il ne semble pas s'agir d'une habitation et que les découvertes à l'intérieur comprenaient une grande quantité d'ossements d'animaux. Il peut avoir été utilisé périodiquement pour des cérémonies éventuellement rituelles impliquant la consommation de nourriture, de vin et peut-être d'offrandes, indique le communiqué. Pour finir, sachez que la construction du nouvel aéroport et ses liaisons routières ont permis la découverte d'au moins 35 autres sites archéologiques.
Quand même. Voilà. Eh bien, quand même. Eh bien, merci beaucoup, Salouane. Et on va suivre ça avec intérêt.
Oui. Oui.
C'est vrai que les vieilles ruines, surtout grecques...
Bah, quand on en retrouve comme ça, de cette taille-là, c'est que c'était quelque chose d'assez...
imposant.
Imposant. Et puis, pour cette période-là, du coup, ça permettrait de lever beaucoup de points d'interrogation.
Exactement. Et bien sûr, on recommande l'excellent jeu Assassin's Creed Odyssey. Oui. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, bon, bah, écoutez, c'est le mouvement. Disponible sur toutes les plateformes, hein, de toute manière. Et donc, c'est une grande affaire que nous allons suivre avec intérêt. Merci beaucoup, Salouane, pour cette découverte, finalement. Enfin, tu n'es pas l'instigateur de cette découverte, mais finalement, sur cette antenne, oui. Parce qu'autrement, on n'aurait jamais entendu parler de cette affaire. En tous les cas, merci beaucoup. On rend l'antenne maintenant, parce que là, ça y est, on file. On file aller voir le match. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je rappelle que la semaine prochaine, l'émission la plus importante de la percée, puisque c'est la dernière.
C'est la fin.
Voilà, c'est la dernière sur cette... cette bande FM. Donc nous ferons un communiqué, comme je l'avais dit la semaine dernière. Je mettrai ça en ligne sur les réseaux pour que tout le monde soit au courant, pour propager la mauvaise nouvelle, finalement.
Pas la bonne parole.
Voilà. Mais bon, en tous les cas, on vous dit merci beaucoup de nous avoir encore écoutés, d'être restés jusqu'au bout. On s'en va. On vous laisse entre les mains de DeepSide pour ceux qui restent, évidemment, fidèles à Radio Alpa, fidèles au poste. Et en tout cas, merci beaucoup. Au revoir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est une révolte.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris. I have a dream.
Libération!